matin de France Culture, Guillaume Erner.
Le Parlement européen votait jeudi dernier à une large majorité en faveur de la directive sur le secret des affaires, 10 jours seulement après les révélations des Panama Papers. Peut-on prôner la transparence et le droit au secret dans le même temps? C'est ce que l'on va chercher à comprendre avec nos invités. Tout d'abord, en duplex depuis Quimper, Irène Frachon, bonjour.
Bonjour.
Irène Frachon, vous êtes médecin pneumologue au CHU de Brest et c'est vous qui avez révélé le scandale du Mediator. Vous incarnez en quelque sorte le personnage de la lanceuse d'alerte en France. On va voir dans quelle mesure les lanceurs d'alerte peuvent se satisfaire de ce secret des affaires. Et puis ici à Paris en studio, nous sommes en compagnie de Claude Revel, délégué interministériel à l'intelligence économique en Conseil des ministres de 2013 à 2015. Et puis Dominique Plion, bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris 13. Vous êtes membre des économistes atterrés et du conseil scientifique d'ATTAC. Je vous l'ai dit, cette directive relative au secret des affaires bruit sur la toile, notamment par le biais d'une vidéo mise en ligne par une humoriste de France Inter, Nicole Ferroni. Cette vidéo a été mise en ligne le jeudi 14 avril sur Facebook. Elle a totalisé 12 millions de vues. On écoute un extrait de cette vidéo.
Vous dites qu'en fait, ce qui peut être préjudiciable pour une PME, c'est de faire voler ses données. Non, ce qui est actuellement préjudiciable, surtout pour les PME, c'est de faire voler leur argent, la caillasse, hein, le flouze, l'oseille, tout ça. C'est surtout le fait que des grandes entreprises comme Google, Amazon, Facebook, tout ça, bah, Apple, par évasion fiscale, font qu'elles ne payent que entre, je crois, 3 et 6% d'impôts, hein, alors que les PME, elles en payent 30. Bam, dans ta gueule, la PME. Vous voyez, donc, c'est dommage parce que vous, pour remédier à ça, vous proposez le secret d'affaires. Mais quel est le rapport? Le secret d'affaires, au contraire, madame Le Grip, c'est ce qui permet actuellement une entreprise comme Monsanto, grosse multinationale, de ne pas publier son rapport sur le glyphosate, vous savez, ce pesticide qui est cancérigène. Et vous, votre loi permettrait qu'en plus Monsanto puisse nous attaquer si jamais on dévoile cette donnée comme quoi c'est vraiment cancérigène. Donc, c'est dommage, vous voyez, au motif de protéger les PME, vous allez permettre à des multinationales de se développer sur le dos de notre santé. C'est con, Sternant. Donc moi, je propose qu'au lieu de faire un rapport, vous faites un report de votre loi, une annulation. Déjà, ça permettra que des gens comme moi ne pensent pas que Commission européenne, vous savez, c'est le nom qu'on donne à une petite commission, comme ça, que des lobbies pourraient donner à un député pour essayer de les acheter, hein, Commission européenne. Donc moi, je vais juste aller voir, du coup, qui parmi les eurodéputés va voter pour votre loi, puis ça me permettra de savoir pour qui ne plus jamais voter. Hein ? Allez, on fait comme ça. Bisous.
Dominique Plion, vous êtes économiste, membre des économistes atterrés. Je ne vous demanderai pas de faire le burk pour le glyphosate, mais de me dire dans quelle mesure ce que ce portrait évidemment humoristique, caricatural fait par Nicole Ferroni dévoile sur cette directive secret des affaires.
Cette directive pose un gros problème. C'est pourquoi je fais partie d'ailleurs, enfin, ATTAC et 51 ONG au total se sont mises en réseau pour demander le retrait de cette directive, parce qu'elle nous semble particulièrement déséquilibrée entre la protection du secret des affaires, qui est une chose, et d'autre part la protection aussi de certains droits fondamentaux à l'expression et à l'information, et elle est vraiment dangereuse.
Alors qu'est-ce qu'elle contient d'inacceptable selon vous?
Bien, ce qu'elle contient d'inacceptable, c'est qu'elle donne une définition vague et large du secret des affaires, de telle sorte que ceux qui, lanceurs d'alerte, syndicalistes, journalistes, vont à l'avenir chercher à trouver de l'information pour dénoncer les comportements, dénoncer les opérations qui ne sont pas justifiées, qui sont illégitimes, eh bien, ces gens-là seront mis en difficulté. Parce que les moyens juridiques donnés aux entreprises pour défendre leur secret des affaires sont tels que ceci aura un effet dissuasif sur la divulgation d'informations. Et ce que je voudrais dire, c'est que probablement, si on peut évidemment, c'est de la politique fiction, mais on peut imaginer que si la directive avait été en application déjà, les Panama Papers n'auraient peut-être pas pu être possibles, LuxLeaks n'aurait pas pu être possible, parce que les lanceurs d'alerte sont dans une situation finalement extrêmement difficile pour pouvoir faire circuler une information qu'ils considèrent comme nécessaire pour défendre l'intérêt général.
Votre avis, Claude Revel?
Eh bien, écoutez, moi, je suis pas tout à fait de cet avis. D'abord, il faut voir pourquoi la directive a été prise. C'est parce que il fallait trouver un moyen de protéger ce qui aujourd'hui n'est pas protégeable. On a la contrefaçon, on a diverses choses, le brevet, etc. Mais on n'a pas la protection du secret d'affaires, c'est-à-dire de l'information importante, stratégique, soit scientifique, technique, soit commerciale, au moment où elle n'est pas encore un produit ni un process, donc elle n'est pas encore protégée. Par exemple, une formule de parfum en train d'être élaborée, des fils noués dans le textile. Moi, j'ai vu pas mal de PME dans ce cas-là. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de protéger des secrets vils, si vous voulez. C'est vraiment être sûr que quand on est en train d'aboutir à une innovation, un concurrent déloyal va pas venir vous la piquer. Pour en profiter. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que ça a été fait. Deuxièmement, et donc derrière, on a des emplois quand même. Et deuxièmement, évidemment, la question de la liberté de la presse et des lanceurs d'alerte a été tout à fait vue hein, dans cette directive. Moi, c'est pas moi qui l'ai rédigée, hein, mais je dois voir que, d'une part, je sais pas comment ils auraient pu faire mieux, parce que l'article 1 dit que le droit de la presse est protégé, et l'article 5 répète qu'il y a des exceptions au secret d'affaires qui concernent la presse qui ne pourra jamais être poursuivie pour les avoir utilisées. Et pareil pour les lanceurs d'alerte qui sont strictement nommés. Et
oui, parce qu'en fait, ceux qui défendent cette directive, Dominique Plion, évoquent notamment dans le texte un paragraphe qui dit « La protection des secrets d'affaires ne devrait dès lors pas s'étendre au cas où la divulgation d'un secret d'affaires sert l'intérêt public dans la mesure où elle permet de révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale directement pertinente. » Et lorsqu'on lit ce paragraphe, on se dit par exemple que pour les Panama Papers, pour ce type de délit, eh bien là, précisément, cette directive semble ne pas s'appliquer.
Exactement. Cette directive ne s'applique pas puisque l'évasion fiscale est légale et donc il faut que le lanceur d'alerte divulgue l'évasion fiscale et tout ce qu'il y a de plus légal. Oui. Et donc, le lanceur d'alerte divulgue l'évasion fiscale qui n'est pas considérée comme illégale, donc il n'est pas protégé par la directive et par la loi. Et c'est pour ça que l'on dit que cette directive est liberticide, au sens où elle ne protège pas suffisamment ceux qui veulent divulguer des informations dans l'intérêt général, même si ces informations correspondent à des opérations légales.
Pardonnez-moi, vous devez m'expliquer, le fait de ne pas payer ses impôts pour une société ou un particulier n'est pas légal.
Non, l'évasion fiscale est à ne pas mettre sur le même plan que la fraude. La fraude fiscale est illégale, c'est-à-dire que là, vous ne respectez pas, vous contrevenez à la loi, mais l'évasion fiscale, c'est profiter de dispositions légales différentes d'un pays à l'autre, entre un paradis fiscal, par exemple, et un pays comme la France, pour pouvoir...
C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale.
Donc, si vous voulez, les Panama Papers, c'est de l'optimisation fiscale, c'est de l'évasion fiscale, donc ce n'est pas couvert. Les lanceurs d'alerte concernés ne seront pas couverts. Et d'ailleurs, le cabinet Fonseca qui est à Panama va probablement utiliser des dispositions du type de celles qui sont dans la directive demain pour attaquer les journalistes qui ont été à l'origine des Panama Papers.
Claude Revel, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Dominique Plion ?
Non, enfin oui et non, parce que si vous voulez, il a raison en ce sens que l'optimisation fiscale, c'est légal, ça c'est vrai. Bon, en revanche, la protection, enfin si vous voulez, lutter contre cette forme d'optimisation fiscale, si on considère qu'elle est illégale, aujourd'hui elle est légale. Bon, si on considère qu'il faut la rendre illégale, c'est pas l'objet de cette directive. La directive secret des affaires, elle est là pour protéger contre, je l'ai dit, contre l'espionnage économique. Et je voudrais revenir après sur un autre point, contre des attaques légales aussi. Bon. Mais si on veut aller plus loin et effectivement éviter que des grandes multinationales, ça, je suis complètement d'accord, aillent ne pas payer d'impôts dans des paradis fiscaux, là c'est l'objet d'un autre texte qui d'ailleurs est en route. Il y a le texte de l'OCDE, il y a une directive européenne qui est en train d'être lancée sur ce sujet-là, et elle complétera, si vous voulez, elle fera la balance avec cette directive secret des affaires.
Dominique Plion, est-ce que la propriété intellectuelle ne méritait pas d'être tout simplement protégée dans une directive, celle-ci ou une autre ? Est-ce que vous êtes hostile à l'idée de la protéger ?
Alors, je pense qu'il y a une protection excessive de la propriété intellectuelle. En tant qu'économiste, je peux vous dire qu'il y a un nombre d'études qui montrent que la protection excessive de la propriété intellellectuelle est contraire à l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on est allé beaucoup trop loin dans la... Je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger certaines innovations, mais la question, c'est comme je le disais au début, c'est un problème d'équilibre. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre la protection du secret des affaires, qui est très largement favorisée, et d'ailleurs, les lobbies ne s'y sont pas trompés, hein, c'est eux qui ont poussé cette directive. Par exemple, Business Europe, parmi lesquels c'était un des lobbies les plus, les plus efficaces pour pousser cette directive.
Expliquez-nous qui est derrière Business Europe.
Business Europe, il y a un certain nombre Madame Revel connaît certainement mieux que moi, mais il y a un certain nombre d'entreprises multinationales.
C'est les MEDEF européens.
Oui,
c'est
ça. C'est l'ensemble
des patronats européens,
si vous voulez, et qui ont poussé cette directive. Ce qu'il faut, c'est comme tout dans une vie en société, il faut trouver un équilibre. Là, il y a deux droits qui s'affrontent. Il y a le droit des affaires, le droit de la propriété intellectuelle, et d'autre part, il y a les droits fondamentaux, et parmi lesquels la liberté d'expression et la liberté d'information. Nous pensons très clairement, et je crois qu'on est très nombreux à le penser, hein, on n'est pas minoritaire de ce point de vue-là dans l'opinion publique, nous pensons que cette directive est déséquilibrée et qu'elle donne la part beaucoup trop belle au droit des affaires par rapport aux droits fondamentaux que sont la liberté d'expression. Et ceci est essentiel pour la société. On parlera tout à l'heure des questions de santé ou des questions sanitaires. C'est des questions qui sont fondamentales pour le bien-être des populations et des citoyens. Nous pensons que ce genre de directive est dangereuse pour ce bien-être des populations.
Irène Frachon, vous nous écoutez depuis Quimper, où vous êtes en duplex. Avez-vous l'impression, lorsqu'on évoque cette directive sur le secret des affaires, que les lanceurs d'alerte sont aujourd'hui dans une situation finalement beaucoup moins confortable qu'on aurait pu le souhaiter ?
Bien sûr, il y a une immense hypocrisie, et pour les lanceurs d'alerte, c'est complètement flippant, cette directive. Pourquoi ? Parce que d'abord, la situation des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui ne savent pas qu'ils lancent une alerte. Ce sont des gens qui découvrent des informations, légales ou illégales, extraordinairement choquantes, notamment pour l'idée qu'ils se font du bien commun. Et donc, il y a à ce moment-là une mécanique de nécessité de révélation qui se met en place. Et généralement, les personnes qui sont engagées dans ce processus, comme je l'ai été moi pour révéler donc un scandale sanitaire, ne savent pas qu'elles sont dans une démarche de lanceur d'alerte. Ça dépend un métier. Et dans un grand nombre de cas, elles ne savent pas les risques qu'elles prennent, ces lanceurs d'alerte. Et ces risques sont immenses avant même que cette directive ne s'applique. C'est-à-dire que révéler des secrets industriels qui vont effectivement menacer éventuellement les intérêts financiers, hein. Quand j'entends parler que c'est pas une question d'argent, enfin c'est délirant, hein. c'est bien, on est en plein dans une question d'argent, on risque d'avoir des représailles extrêmement violentes, quelle que soit d'ailleurs la situation qu'on va révéler. On me dit que la directive secret des affaires, par exemple, épargnerait les lanceurs d'alerte qui révèlent des agissements illégaux. Alors, il faut savoir que, en ce qui me concerne, j'ai révélé des agissements totalement illégaux et qui ont conduit à la mise en examen pour des chefs extrêmement lourds, une entreprise française.
Le laboratoire Servier pour le médicament.
Le laboratoire Servier, voilà. Donc, a priori, on peut se dire, bon, ben, tranquille, cool, je fais ça et puis je suis parfaitement protégé. Sauf qu'en fait, moi, quand mon livre donc de révélation est sorti, j'ai été attaquée pour dénigrement par le laboratoire Servier. C'est passé en justice. Et le juge a estimé que je menaçais gravement les intérêts industriels de l'entreprise et a censuré et condamné la publication du livre. Mmh. Alors que la suite a démontré que tout ce que je révélais était parfaitement illégal, effectivement, et même criminel. Donc, vous voyez que la démonstration que de l'illégalité, etc., est sujette à des très très grandes variations d'appréciation, notamment du jugement. C'est extrêmement difficile. Et là, je parle d'un cas caricatural, de la dénonciation d'un crime caricatural. Mais j'ai une autre pensée qui est pour un lanceur d'alerte qui s'appelle Antoine Deltour, qui va être jugé dans quelques jours maintenant par le Luxembourg pour avoir dévoilé des éléments extraordinairement choquants, effectivement d'optimisation fiscale, mais en fait
dans le cadre du procès LuxLeaks.
LuxLeaks, exactement. J'ai rencontré au siège de Transparency International.
On va en parler à 8h15 parce que le temps presse, mais effectivement, nous avions prévu d'évoquer le procès à Luxembourg d'Antoine Deltour. On en reparle dès 8h15 sur cette antenne sur France Culture. En attendant, il est 7h55.